Donc, la première séance de l'université ouverte a touché les aspects des nouveaux enjeux migratoires dans les contextes euro-africains. Quels sont les éléments et les caractéristiques de cette nouveauté et quelles ont été donc les transformations des phénomènes liés aux migrations?
Les principaux éléments de cette nouveauté sont essentiellement d'ordre politique, de l'ordre des relations entre l'Union européenne et le Maghreb, l'Union européenne et l'Afrique subsaharienne, parce que depuis quelques années, l'Union européenne applique ce qu'on appelle la politique d'externalisation de la gestion des flux migratoires et cherche à constituer autour de l'Union, autour de l'espace Schengen, ce qu'on appelle des pays sûrs. Alors, dans le temps, les pays sûrs, c'était les pays de l'Est européen qui désormais font partie de l'Union européenne. Je pense notamment à la Pologne, par exemple. Maintenant que ces pays-là font partie de l'Union européenne, la nouveauté est que désormais l'Union européenne à 25 est en train de voir le Maghreb comme un ensemble de pays qu'elle voudrait devenir comme des pays sûrs et donc qui pourraient servir comme un corridor de protection vis-à-vis des migrants irréguliers subsahariens. Alors, pour ce qui est des autres éléments, rien n'est très nouveau, puisque les migrants aujourd'hui qui essayent de traverser vers l'Union européenne, ça constitue toujours le même nombre, entre 10 et 15 000 personnes annuellement. Ce sont des gens qui viennent de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne et également du Maghreb. Ce qui est par contre nouveau et aggravant dans cette histoire, c'est que les mesures de sécurité qui ont été prises par l'Union européenne, notamment depuis 2002, et particulièrement à travers ce que les Espagnols appellent le CIVE, le système intégré de vigilance extérieure, ces mesures-là, les mesures de sécurité, ne semblent pas être parvenues à bloquer les flux migratoires. Ce qui est apparu, c'est que de nouvelles filières sont aujourd'hui à l'œuvre, et on a vu que les migrants, désormais, au lieu de partir, de passer par le Maroc et le détroit de Gibraltar, désormais, ils ont commencé à partir de Libye. Mais quoique, pour la Libye, c'est une situation assez discutable, étant donné le caractère à la fois de la situation des migrants en Libye et également le type de relation que l'Union européenne a avec la Libye. Et puis l'autre élément, c'est que depuis les événements du mois de septembre et octobre dernier dans le nord du Maroc, à la frontière des villes espagnoles occupées au Maroc, Ceuta et Melilla, nous avons remarqué qu'il y a un transfert des migrations qui désormais opère à partir de la Mauritanie, à partir des côtes mauritaniennes. Ce sont désormais des migrants qui viennent directement de l'Afrique occidentale ou du Mali, et qui tentent de passer directement en Espagne, en Europe, en passant par les côtes mauritaniennes, en se dirigeant tout droit sur près de 1000 km de mer, en passant tout droit vers les îles Canaries. Or, donc, ce qui est nouveau, c'est essentiellement la pression médiatique, c'est essentiellement la politisation du phénomène de la migration irrégulière à partir de l'Afrique. Par contre, cela s'ajoute à des éléments, on dira, constants, comme celui du nombre de migrants concernés, et à un autre élément constant qui est la situation alarmante sur le plan économique et social et politique de l'Afrique.
Et voilà donc, dans cette opération de rendre sûr l'État du Maroc, quel est à votre...
L'État du Maroc et les autres pays du Maghreb, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, et aujourd'hui, avec le soutien de militaires espagnols, la Mauritanie.
Oui, exactement. Et quel est, à votre avis, selon votre point de vue, le rôle du gouvernement du Maghreb, mais aussi du gouvernement du Maroc dans cette attitude? Y a-t-il une complicité? Y a-t-il une ambiguïté, disons, dans cette rôle des sujets qui assurent la sécurité?
Je crois que pour ce qui concerne le Maroc, depuis pratiquement 2002, la politique publique marocaine en matière de politique migratoire a collé à la politique européenne. C'est-à-dire que le Maroc a commencé à répondre positivement à toutes les demandes européennes, à l'exception du seul qui à l'exception de deux qui sont d'un côté l'installation de camps de concentration au Maroc et dans le sud marocain, et la deuxième c'est la réadmission des migrants irréguliers provenant du sud du Sahara. À part ces deux éléments, pratiquement le Maroc répond point par point à toutes les demandes s'agissant de la police migratoire à propos de ce que demande l'Union européenne, donc les contrôles, le renforcement des contrôles à l'entrée du Maroc, le renforcement des contrôles à la sortie du Maroc, l'adoption d'une loi sur les étrangers qui luttent contre les migrations irrégulières et contre les filières migratoires, le renforcement des moyens de sécurité dans les ports, aéroports et aux frontières, et donc toutes les mesures d'accompagnement qui voudraient rendre le Maroc sûr sur le plan du transit, et qui voudrait aussi faire du Maroc non pas un simple pays de transit, mais un pays également d'immigration où les migrants pourraient s'installer. Alors je pense que ce que fait le Maroc aujourd'hui, l'Algérie commence à le faire, alors même que durant les premières années de l'actuelle décennie, l'Algérie disait qu'en fait, les migrants qui rentrent sur son territoire, ils rentrent seulement en Algérie, ils ne transitent pas par le Maroc pour aller en Europe. Or, aujourd'hui, l'Algérie a commencé à fermer ses frontières avec le Mali et le Niger. Elle a commencé également à partir du début du mois de novembre à refouler des migrants en nombre plus important qu'elle ne le faisait par le passé vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, la politique migratoire algérienne est devenue quasiment analogue, même si elle est moins médiatisée, quasiment analogue que celle du Maroc. Et puis, maintenant, la Libye, c'est là qu'on a une ambiguïté, on a une ambiguïté extrêmement importante. D'abord, il y a une complicité entre l'Italie et la Libye pour ce qui concerne la question des camps de concentration, pour ce qui concerne le contrôle aux frontières sud et au nord de la Libye. Mais l'ambiguïté, c'est que la Libye n'est pas un état de droit. C'est que les autorités libyennes ne sont pas connues en Afrique, notamment, comme étant des autorités qui respectent les droits de l'homme. Or, la politique migratoire européenne se veut, entre parenthèses, respectueuse des droits de l'homme. Et c'est à partir de la confirmation de ce respect des droits de l'homme que, par exemple, l'Union européenne, dans son ensemble, et l'Italie en particulier, sont en train de signer des accords de coopération très très importants avec la Libye pour la gestion des flux migratoires. Alors la Tunisie, sur le plan officiel, elle a adopté les mêmes options que le Maroc, et donc elle a répondu aux demandes européennes, notamment par l'adoption d'une loi encore plus restrictive sur les étrangers que la loi marocaine. C'est une loi qui a été adoptée au mois de février 2004. Et puis aujourd'hui, nous voyons que, sans ambiguïté aucune, la Mauritanie permet l'arrivée des Espagnols sur son territoire pour essayer à la fois de bloquer les migrations vers les côtes canariennes et aussi pour installer, comme cela a été fait le 18 mars dernier, pour installer des camps de concentration à Ouagadougou pour y concentrer et y détenir les immigrants irréguliers que l'Espagne refoule vers le territoire africain. Donc l'idée générale dans l'ensemble du Maghreb est que les autorités officielles désormais appliquent ce que l'Europe leur demande en matière migratoire. Maintenant, la seule différence entre le Maroc et le reste des pays maghrébins est qu'au Maroc, il y a une opinion publique, il y a une société civile, il y a certains partis politiques d'opposition qui dénoncent la politique officielle suivie par les autorités marocaines, qui dénoncent la politique d'externalisation des flux migratoires par l'Europe, qui apportent leur appui aux migrants irréguliers aussi bien marocains que subsahariens sur le territoire marocain et en Europe, et qui voudraient que la politique officielle au Maghreb et la politique migratoire européenne se transforment non plus, ne reste plus simplement une politique sécuritaire, mais deviennent une politique sur le long terme, une politique qui protège les droits de l'homme, une respectueuse des droits de l'homme, et surtout une politique qui va pour faire face aux motifs des migrations, et que ces motifs-là, ce sont des motifs économiques et sociaux, et non pas seulement la volonté de certains migrants irréguliers d'aller passer la baie de beaux jours en Europe.
Oui, mais...
C'est une différence de mon point de vue extrêmement importante. Il n'y a aucun pays au Maghreb où il y a une société civile et des partis politiques aussi présents pour dénoncer les politiques migratoires officielles et pour dire que d'autres solutions sont possibles qu'il faudra appliquer et pour défendre les droits des migrants, les protéger contre l'ensemble des violences qui leur sont faites aussi bien au Maghreb que de la part des autorités puis des forces de sécurité, de la part des mafias africaines qui trafiquent dans les personnes humaines, que de la part des autorités et des groupes mafieux qu'on retrouve également en Italie, en Espagne et ailleurs.
Et oui, et dans les Maroc, à propos de camps de rétention, donc...
Officiellement, il n'en existe pas. Et le Maroc a dit qu'il ne, comme ce que l'Algérie l'a déclaré, le Maroc a dit qu'il ne voulait pas de camps de rétention ou de camps de concentration. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des événements d'octobre-novembre dernier, les autorités marocaines étaient un peu submergées d'abord par le nombre de migrants qui en avaient été arrêtés, et aussi elles étaient sous pression de la part des autorités espagnoles qui n'ont pas arrêté d'exiger des Marocains ou de demander aux Marocains de les protéger des assauts des migrants contre les barbelés de Ceuta et Melilla. Et donc le temps que les autorités marocaines refoulent entre 2000 et 3000 migrants vers le Sénégal, vers le Mali et vers d'autres pays, aussi bien par voie terrestre que par voie aérienne, ben ils ont eu recours, les autorités marocaines ont eu recours, je pense, à certains centres, soit de police, soit à des casernes militaires. Et je pense que c'était le temps d'organiser les refoulements ou les expulsions des migrants vers leur pays. Mais à ma connaissance, il n'existe pas de camp à proprement parler officiel où les migrants sont regroupés, détenus, emprisonnés, en attendant par exemple que des dossiers, des demandes d'asile soient analysées par exemple. Il n'y a pas de camp comme cela a été constaté par exemple en Égypte à la fin du mois de décembre dernier autour du siège du HCR au Caire. Et il n'y a pas de camp comme cela se trouve aujourd'hui en Libye où on pense qu'il y a entre 37 et 45 camps. Actuellement, il n'y a pas de camp de concentration ou de rétention. Les seuls espaces qui sont aujourd'hui concernés par cela, ce sont des espaces officiels et qui sont utilisés le temps que des migrants soient transportés du Maroc jusqu'aux frontières extérieures marocaines.
Ah, donc il y a quand même des espaces d'attente.
Ah oui, ben le temps, normalement il y a un recours à la justice. Et évidemment, ces gens, comme ils ne sont pas condamnés à la prison, ils ne vont pas être mis en prison. Ben, du moment que la justice, parfois c'est le juge qui le décide, ou les autorités publiques, sur la base de considérations purement politiques ou d'ordre public, ben, le temps d'assurer le transfert. Et ils sont dans des lieux de rétention. Mais il n'y a pas de camp au sens où cela a été voulu par l'Europe, notamment à Salonique à la fin de l'année 2003. Et à l'image de ce qui existe aujourd'hui en Libye.
Donc vous avez mentionné des aspects économiques. Disons que la production du discours officiel, par exemple en Italie, face au thème de l'immigration, s'appuie toujours sur les référents de donner en aide aux pays émergents pour que les populations restent chez eux. Il y a toujours ce fait de les aider chez eux.
Oui.
Très bien. Donc comment est-ce que cela s'est traduit sur les plans des accords d'association, des coopérations bilatérales, bref, sur les plans de l'aide au développement, constitue l'un des objectifs de la conférence de Barcelone du 1995 et qui devrait amener en 2010 à la zone de libre-échange dans l'espace euro-méditerranéen.
Mon point de vue est que l'aide au développement aujourd'hui est une grosse hypocrisie. Et que ce que l'Europe donne de la main droite, elle le reprend de la main gauche. Et lorsqu'on fait l'analyse des fonds qui sont aujourd'hui, entre deux guillemets, accordés par l'Union européenne à l'aide au développement en Afrique, on remarque que c'est l'Europe, dans le dernier plan stratégique qui a été proposé je crois, à la fin de l'année 2005, on a remarqué que ces fonds sont passés de 5 milliards de dollars en 1985 à 15 milliards de dollars en 2003, ce qui signifie qu'il y a une augmentation, une multiplication par 3. Or, on remarque qu'en 1983, l'Union européenne ne comportait que 12 pays. Depuis, elle a comporté 15, puis aujourd'hui, elle en comporte 25. On remarque aussi que l'Europe est devenue 5-6 fois plus riche qu'elle ne l'était en 1985. On remarque aussi que la misère et la crise économique en Afrique est devenue beaucoup plus importante, beaucoup plus forte, et notamment grâce à cause de certaines politiques aussi bien européennes lorsqu'il s'agit de la politique agricole commune que des politiques qui sont aujourd'hui suivies dans le commerce mondial en rapport avec l'Organisation mondiale du commerce. Et donc le constat est que l'Afrique est désormais considérée et marginalisée, et elle apparaît comme un laissé-pour-compte du développement. Or, le développement de l'Afrique nécessite, une mobilisation des ressources à l'intérieur de l'Afrique, nécessite l'installation de la démocratie et de la bonne gouvernance dans les pays du sud du Sahara et également dans les pays du nord de l'Afrique, qui ont des ressources plus importantes que celles dont disposent les pays du sud du Sahara. Et aussi, cela implique que les investissements étrangers viennent en plus grand, dans des montants plus importants que ce n'est le cas aujourd'hui, puisque l'Afrique aujourd'hui ne reçoit que moins de 2,5% des investissements directs étrangers. Et par ailleurs, les investissements directs étrangers en Afrique ne vont pas dans les secteurs créateurs d'emplois, ne vont pas dans les secteurs créateurs de richesses. Les investissements directs étrangers, notamment européens, ils vont vers les secteurs, soit des secteurs de monopole public, comme l'eau ou l'énergie, soit vers des secteurs qui ne sont pas concurrentiels et qui sont également qui relèvent aucunement de monopole public en Afrique, qui sont le secteur de la communication. On ne constate pas d'investissement européen en Afrique dans l'automobile, dans le textile, dans les services hôteliers, dans un certain nombre d'activités. Et donc ça fait que les investissements européens vont vers des secteurs à forte rentabilité et qui sont par ailleurs quasiment sous contrôle. Et l'autre élément important, c'est que les investissements étrangers qui viennent en Afrique rapportent davantage aux pays étrangers qu'aux pays africains, puisque selon leur dernier rapport produit par la CNUSED au mois d'octobre de l'année dernière, il a été dit que à chaque fois qu'il y a un investissement extérieur en Afrique, et je viens de dire combien ces investissements sont faibles, 75% de la valeur ajoutée liée à ces investissements ressort de l'Afrique pour aller vers les pays investisseurs. Et donc le problème n'est pas tant de reconfigurer l'aide de développement qui est en fin de parcours une simple assistance qui relève du social, mais de dire aujourd'hui l'Afrique est en crise économique et financière. Ben, il faut qu'on mette en œuvre des fonds structurels importants, il faut qu'on mette en œuvre un véritable plan Marshall de développement économique et social pour l'ensemble du continent africain, pour aider et soutenir les politiques industrielles et de développement au Maghreb, et aussi pour faire en sorte que des pays comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger ou la Guinée-Conakry soient véritablement aidés pour se sortir de la crise qui est la leur. Ce sont des pays qui ont besoin de fonds importants, qui ont besoin de transferts de technologies, qui ont besoin de cadres pour diriger le développement économique et social. Et je pense que de tout cela, l'Europe ne veut rien aujourd'hui.
Cette idée, cet développement de la zone de libre-échange...
Elle n'a pas été bénéficiaire pour l'Afrique du Nord. En tous les cas, elle n'a pas été bénéficiaire pour le Maroc pour deux raisons majeures. C'est que, il était dit, en rapport justement avec ce que vous avez dit tout à l'heure de le processus de Barcelone, que les accords de libre-échange allaient permettre l'installation d'une zone de développement et de prospérité partagée. Et cela grâce, à une plus grande facilitation du commerce entre le Maghreb et l'Union européenne, et deux, grâce à l'augmentation des investissements directs européens au Maghreb et au Maroc notamment. Or, on constate que les investissements européens ne sont pas venus d'une façon plus importante en Afrique du Nord et notamment au Maghreb. En Algérie, l'Algérie reçoit des investissements, mais seulement dans le secteur énergétique. Par exemple, je vais vous dire à titre d'exemple, à titre d'illustration de cela, les investissements français au Maroc, la France étant le principal investisseur étranger au Maroc, les investissements français au Maroc représentent à peine 0,15% de l'ensemble des investissements français à l'étranger. Et c'est à peu près la même proportion pour les investissements espagnols au Maroc. Donc, pour ces deux pays notamment qui sont supposés très proche du Maroc, l'un pour des raisons historiques, étant donné l'histoire coloniale entre les deux pays, l'autre pour des raisons de proximité géographique, ben, ces deux pays sont extrêmement éloignés du Maroc puisque leurs efforts d'investissement au Maroc sont extrêmement réduits. Et lorsque la France est présente, elle est essentiellement présente à travers l'achat d'une partie de la plus grande partie du capital de Maroc Télécommunications ou à travers les grandes compagnies de distribution d'eau et d'électricité dans les principales villes du Maroc. De cela a conduit qu'aujourd'hui, la croissance au Maroc n'est pas devenue plus forte. C'est encore une moyenne comprise entre 2,5 et 3,5% annuellement. L'année dernière, le taux de croissance du PIB au Maroc n'a pas été supérieur à 1,8%. Et vous savez qu'aujourd'hui au Maroc, le taux de pauvreté se situe à 25% de l'ensemble de la population. Or, pour que le Maroc sorte de sa crise sociale et diminue le chômage dans sa population active, il faut qu'il connaisse sur une longue période un taux de croissance de son PIB de 7 à 8% annuellement et sur une très longue période. Et puis l'autre élément important, j'ai parlé tout à l'heure du commerce extérieur. Bah aujourd'hui, on constate que le déficit commercial marocain, le déficit de la balance commerciale marocaine avec l'Europe et également avec l'ensemble des autres pays du monde, le déficit a été multiplié par pratiquement 4 fois entre 1992 et 2005. Et que désormais, lorsque le Maroc importe 2 euros, il exporte à peine 1 seul euro, alors que le taux de couverture des importations par les exportations était de 0,75%, voilà, à la veille de la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Donc, sur le plan économique pur, sur le plan financier pur, l'accord pour la création d'une zone de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne n'a pas été tout à fait bénéficiaire au Maroc et dans tous les cas n'a pas produit les effets positifs qui en étaient attendus lorsque cet accord a été signé au mois de février 1996. Je pense que c'est aujourd'hui le même cas, même s'il est un peu moins marqué, que en Tunisie. Le seul constat qu'on peut faire de positif pour le Maroc, c'est que effectivement le processus de Barcelone a permis une relance extrêmement importante de la société civile, a permis d'entretenir le courant, on va dire, d'ouverture politique que le Maroc connaissait déjà au début des années 1990. Ce qui n'est pas le cas pour l'Algérie ou la Tunisie ou la Libye.
À propos de cela, revenons sur le Maroc, pays d'immigration. Les témoignages que nous avons ramassés de l'Italie pendant aussi une caravane européenne à Ceuta et Melilla nous indiquent une tendance très dangereuse de racisme et aussi de contre les droits de l'homme. Donc je voulais savoir comment se manifeste la convivence et la contemporanéité entre pays d'émigration et pays d'immigration.
La coexistence ou la contradiction entre pays d'immigration et pays d'émigration, c'est ça?
Oui, exactement. Et quelles sont les politiques du gouvernement Maroc
Je vais vous expliquer la montée du racisme. En fait, le racisme, on l'a vu essentiellement dans certains journaux et aussi parfois à travers des mots particuliers, notamment l'usage du mot « invasion », du mot « augmentation inconsidérée », certains mots comme ça, qui ont été utilisés notamment dans les médias officiels, à la radio et à la télévision, et également certains moyens de presse liés au gouvernement. Et cette montée du racisme dans les écrits était plutôt véhiculée pour justifier l'adoption de la loi sur l'immigration marocaine, la loi qui a été promulguée au mois de novembre 2003, et deux, pour accompagner l'ensemble des actions que les autorités de sécurité au Maroc menaient au bénéfice de la protection de l'Europe. mais profondément la société marocaine, parce que justement, nous savons qu'il y a 3 millions de Marocains qui vivent à l'étranger. Et puis par ailleurs, nous savons que nous sommes un pays africain, un pays qui a beaucoup d'intérêts, beaucoup de relations culturelles, sociales, politiques avec l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne, et notamment avec des pays comme le Sénégal, le Mali, le Niger ou la Côte d'Ivoire. Ben, il est évident que le racisme ne relève pas du fonds social marocain. Effectivement, il y a sur certains cas, et de la part des mafias, de mafias organisées, et de la part de certains groupes téléguidés par des services publics, des services de sécurité, il est évident qu'il y a eu un certain nombre de réactions racistes, et notamment la plus connue, c'est celle de ce journal du nord du Maroc, qui a sorti une grande première page, un article disant que le Maroc était soumis à l'invasion des criquets pèlerins, c'est-à-dire qu'il comparait l'arrivée des migrants au nord du Maroc à l'arrivée des criquets sur l'ensemble du Maroc. Mais à part ces actions localisées, à part un certain racisme, on va dire populaire, primaire, qui existe auprès d'un certain nombre de voyous ou de certaines catégories non, évidemment, qui ne sont pas au fait des réalités marocaines et de la notion de protection des droits de l'homme. Je pense et je passe mon temps à rencontrer des subsahariens, à rencontrer des Marocains qui vivent avec des subsahariens. La situation est plutôt dans une certaine coexistence et solidarité. D'autant que les subsahariens vivent aujourd'hui, lorsqu'ils vivent à Rabat ou à Casablanca ou à Tanger ou à Alger, ils vivent dans les quartiers périphériques. Or, dans ces quartiers périphériques, nous avons les populations les plus pauvres et notamment les populations marocaines qui sont les plus sujettes à partir en Europe. Et donc, à partir de là, elles ont le même réflexe de solidarité vis-à-vis des migrants subsahariens.
Et sur le plan de l'égalité des droits de citoyens marocains et des immigrés, disons.
Bah, quel droit, par exemple? L'accès à l'hôpital, c'est le même. Parce que les Marocains, là, j'ai participé à plusieurs rencontres, et j'ai entendu des migrants subsahariens dire qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Bah, je vais vous dire que seulement 15% de la population marocaine a une couverture médicale. Et aujourd'hui, si lorsque vous êtes marocain, et si vous n'avez pas ce qu'on appelle un certificat d'indigence qui est donné par les autorités publiques et locales, vous n'avez aucune chance d'être reçu à l'hôpital. Et aujourd'hui également au Maroc, si vous êtes une femme pauvre qui vient du milieu rural et vous voulez accoucher, vous avez très peu de chances d'être reçu rapidement pour accoucher dans un service normalement équipé. Et si vous êtes également très pauvre mais vous n'avez aucune couverture médicale, vous avez, même marocain, vous avez très peu de chances de voir un médecin spécialiste, vous avez très peu de chances d'avoir accès à des médicaments qui pourraient soigner votre maladie. Et donc, de ce point de vue, aussi bien pour les Marocains que pour les migrants subsahariens, lorsqu'il n'y a pas de ressources, l'accès à l'hôpital est extrêmement réduit, et cela pour une raison toute simple, c'est que l'ensemble de la dépense médicale au Maroc, aussi bien publique que privée, ne dépasse pas aujourd'hui 7 euros par habitant et par an. 7 euros par habitant et par an, lorsque cette dépense représente 700 à 800 euros par habitant et par an en Europe. Mmh. Et donc, et puis je vous ai dit au début qu'il y a un taux de pauvreté tel au Maroc que, évidemment, on se demande si les Marocains ont accès à certains droits. Okay. Nous avons 25% de pauvreté absolue. Mmh. C'est-à-dire que, à peu près aujourd'hui, entre 5,5 et 6,5 millions de Marocains vivent avec une dépense moyenne par jour égale ou inférieure à 30 centimes d'euros.
Oui.
Voilà.
Oui.
Voilà, très rapidement, la configuration sociale et puis l'autre est sociale et économique du Maroc. Et l'autre élément, l'activité et le chômage, aujourd'hui, dans les villes les plus importantes du Maroc, et justement là où on trouve le plus de migrants, même si le nombre des migrants au Maroc est très réduit, c'est moins de 0,25% de la population marocaine, dans les villes les plus importantes du Maroc, le taux de chômage parmi la population active s'approche de 20%. Et donc, normalement, pour voir la situation dans laquelle vivent les migrants dans un pays comme le Maroc, il faut pouvoir aussi analyser la situation économique et sociale et globale de ce pays. Et on va constater que l'accès des Marocains, on va dire du Marocain moyen à ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux est extrêmement réduit, Et donc, ça ne peut être que la même chose pour ce qui concerne les migrants subsahariens.